place publique.
Le retour de la grippe aviaire en Suisse a provoqué la mort de plusieurs oiseaux, notamment sur les rives du lac de Neuchâtel. Le virus H5N8 menace désormais les élevages de poulets. On fait le point avec un biologiste engagé pour la protection des oiseaux.
Les canards sont les plus touchés. L'occasion pour nous de savoir si on connaît nos amis du lac.
Autre virus, mais qui concerne les êtres humains cette fois. Les cas déclarés de maladies sexuellement transmissibles sont en hausse en Suisse. Et comme le mois de décembre rime avec campagne de prévention, nous tenterons de savoir comment réduire les pratiques à risque.
Nous nous mettrons dans la peau d'une jeune femme appelée Canelle, âgée de 19 ans, et qui a de la peine à faire rimer désir et raison lorsqu'elle se retrouve en soirée.
Ils sont retraités et ils s'inquiètent pour l'avenir du climat, mais aussi pour l'avenir de leur retraite. Des aînés ont manifesté cette semaine dans plusieurs villes de Suisse romande, dont la Chaux-de-Fonds. Ils demandent aux caisses de pension d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles.
On a, je pense, de plus en plus envie de préserver la planète, ou en tout cas ce qui peut encore être préservé. On essaiera de voir comment améliorer notre consommation avec des remèdes de grand-mère ou de grand-père.
Jusqu'à 19h, place publique. Nadia et Gabriel.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir Gabriel et bonsoir Barnabé. Vous venez apporter votre regard d'humoriste. Et pour vous, ce soir, place publique s'adresse avant tout aux hypochondriaques.
Tout à fait, Nadia, Gabriel. Ce soir, j'ai une pensée émue pour nos auditeurs hypochondriaques. Tout d'abord, nous allons parler de la grippe bataille nasale, H1N1, touché, H5N8. Excusez-moi, coulez.
Vous voulez un mouchoir ?
Volontiers. Et oui, nous allons parler du retour de la grippe aviaire. Heureusement qu'on habite à Neuchâtel. Non, je rigole, Nadia, évidemment. Je sais qu'elle est déjà présente sur nos lacs en Suisse. Et donc, un conseil averti à nos auditeurs hypochondriaques, si vous voyez un canard qui éternue ou avec un mouchoir, évitez de l'embrasser. Le second sujet, toujours maladie, hein, désolé pour vous les hypochondriaques, il y a une recrudescence d'MST en Suisse. Mon grand-père me disait toujours MST, ça veut dire meilleur souvenir de Tanzanie. Bah, du coup, moi j'étais tranquille, j'ai jamais quitté la Suisse. Mais effectivement, je l'ai vu moi-même, cette recrudescence de MST. À Genève, on en voit partout. Hein. MST, mini-jupe, string, top à paillettes. C'est vrai, c'est vraiment un fléau, le mauvais goût vestimentaire. Un doute m'habite, Gabriel. C'est quoi la définition de MST ?
Alors, je dirais maladie sexuellement transmissible.
Ah, ouais, mais alors pour l'attraper, il faut...
Oui, il faut avoir une vie sexuelle, c'est ça.
Ouais, alors c'est bon, je suis tranquille. J'ai lu d'ailleurs que des chercheurs ont prouvé que les virus étaient myopes et n'avaient aucun sens esthétique. Donc si vous êtes vieux, gros et moche, vous avez autant de chances de choper la syphilis, la gonorrhée ou le sida qu'une petite pépette de 20 ans en mini-jupe et au sein siliconé. La seule chose qu'elle risque plus que vous, c'est de prendre froid et d'attraper la grippe aviaire. Enfin, le troisième sujet de la soirée, il semblerait qu'une frange de la population ne soit pas du tout hypochondriaque. Ce sont les retraités. Donc oui, ils sont de moins en moins malades et meurent de plus en plus vieux. Donc pour toi, l'hypochondriaque qui nous écoute, le meilleur moyen de te traiter devient retraité. Alors que paradoxalement pour eux, le terme est proche, nos retraités ont une vision à long terme et demande aux caisses de pension d'investir en évitant d'investir dans les énergies fossiles telles que le pétrole. Idée brillante et tout à fait louable. Hein. Je leur fais simplement remarquer que si le week-end prochain on ne vote pas pour une sortie rapide du nucléaire, on ne mourra pas de grippe aviaire, d'MST ou d'un cancer dû à la pollution, mais atomisé par la centrale de Mühleberg. Pour terminer, une chose est sûre, notre conseil fédéral, lui, par contre, n'est pas du tout hypochondriaque. Pour oser nous dire, ne fermons pas les centrales nucléaires parce qu'il y a pas, il y a peut-être un risque, mais par contre, on va nous demander une compensation financière. Là, c'est sûr qu'il croit en sa bonne étoile.
Barnabé, merci pour votre regard caustique sur le menu. C'est vrai qu'il va plaire sans doute à tous les hypochondriaques de tous bords.
Je pense.
Et je pense qu'ils vous ont entendu. Alors, on commence avec la grippe aviaire qui est de retour. Alors, contrairement à ce que vous disiez, cette souche-là n'est pas transmissible à l'homme. Hein. C'est important de le souligner quand même. On va rassurer beaucoup de monde. Donc, elle est de retour quand même. H5N8, c'est son petit nom. Des cas d'oiseaux morts ont été signalés sur les rives des lacs de Neuchâtel et de Bienne. Par mesure de précaution, la Confédération a étendu à tout le territoire suisse le dispositif de contrôle. Tout détenteur d'élevage, de volailles ou de canards doit désormais les confiner à l'intérieur pour éviter toute contamination, avec des oiseaux sauvages infectés qui passeraient par là.
Le lac de Neuchâtel qui abrite un véritable paradis pour oiseaux migrateurs venus de toute l'Europe avec la réserve naturelle de la Grande Carissaie. Alors s'agit-il d'une bombe à retardement ? Le danger vient-il plutôt du comportement de l'homme ? Des questions que nous posons à notre invité qui est biologiste.
Bonsoir François Turian.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur roman de BirdLife Suisse, association de protection des oiseaux. Tout d'abord, votre réaction aux mesures prises par la Confédération, avec notamment le confinement des élevages pour éviter des infections.
On a quand même affaire à une épizootie, donc avec des risques assez sérieux pour les volailles. Ce virus est extrêmement contagieux entre oiseaux, donc c'est des mesures sages de précaution qui ont été prises par la Confédération.
La population doit signaler tout cas suspect ou oiseau mort à la police ou au garde-faune. Quel autre conseil on peut donner à tout un chacun, notamment aux promeneurs du bord du lac ?
Alors le principal conseil, c'est de ne pas donner de pain aux oiseaux du lac. On sait que c'est déjà une mesure en temps normal qui n'est pas la bienvenue, parce que de balancer dans le lac des kilos de pain, c'est pas forcément bien pour l'environnement lacustre. Et puis là, évidemment, si on augmente la promiscuité entre les canards, les cygnes, tous ces oiseaux qui viennent chercher du pain, eh bien on peut augmenter la prolifération de ce virus au sein des canards sauvages.
Alors on se souvient de la grippe aviaire H5N1 2004, qui était cette fois si transmissible à l'homme, hautement pathogène. Est-ce que ce genre d'épizootie et d'épidémie vont se multiplier ?
Alors, il y a peut-être ce risque, effectivement. On a, le mal qu'on fait à l'environnement, ça peut faire ressurgir, surgir des virus qui sont peut-être enfouis, qui sont peut-être moins problématiques. C'est clair qu'avec des grands élevages industriels, une agriculture intensive, on simplifie les écosystèmes, et c'est jamais bon de simplifier les écosystèmes, parce que lorsque la nature est simplifiée, qu'elle est mise à mal, eh bien, ça peut être justement des ravageurs ou des pathogènes, des virus qui peuvent ressurgir est d'autant plus virulent. Donc il faut se préoccuper de la qualité de notre environnement et faire tout ce qu'il faut pour essayer d'éviter cela. Quoi.
Préserver la qualité, la biodiversité dans notre environnement, ça passe aussi par des réserves naturelles. On l'a entendu tout à l'heure, il y a une réserve naturelle qui s'appelle la Grande Carissaie sur les bords du lac de Neuchâtel, qui abrite des dizaines de milliers d'oiseaux. On vient de toute l'Europe quand on est un oiseau pour se sentir bien dans nos contrées. Est-ce que le lac de Neuchâtel pourrait devenir finalement, paradoxalement, un incubateur de virus dangereux pour l'homme ?
Non, certainement pas. Encore une fois, si on respecte la nature, si on prend soin d'elle, eh bien, elle va aussi en retour être plus pacifique à notre égard, puisque en fait, on sait que les virus dans la nature, il y a des résistances qui s'opèrent au niveau de la faune sauvage. Par contre, évidemment, dans les grandes halles de poulets, vous avez de dinde, où vous avez 10 000 ou plus animaux qui sont confinés les uns sur les autres. Évidemment que là, ces ravages sont d'autant plus risqués et problématiques.
On profite, François Turian, de votre présence pour un petit quiz qu'a peaufiné Nadia, ma collègue qui est avec nous.
Oui, alors on parle des canards qui sont infectés par la grippe aviaire. On va voir si on connaît ces canards. On va jouer à notre quiz coin-coin. Vous allez tous participer. Alors, on connaît le nom du mâle, c'est un canard. Est-ce que vous connaissez le nom de la femelle ?
La canne.
La facile, canne. Pour François Turian, en tout cas.
Elle n'est pas forcément blanche. Hein.
D'accord.
La jeune femelle, elle a un autre dénominateur.
Dénomination ? Pour la jeune femelle,
canette.
Canette, c'est juste.
Bien joué.
C'est bon, ça se mange.
L'oisillon.
Ça se boit aussi.
Caneton.
Et puis, l'oisillon adolescent, le juvénile.
Là, on est dans questionnements.
Pointu quand même. Hein.
Vous savez, les canards, la seule chose qui m'intéresse, c'est les plumes qu'on va pouvoir mettre dans nos oreillers.
Ou les magrets.
L'adolescent, c'est le canardo ou le hallebrand.
Très bien, vous nous avez piégé, c'est un point pour vous.
On va continuer. Est-ce que vous connaissez le cri que pousse le canard ? Alors, comment est-ce qu'on appelle ?
Coin-coin.
Oui, alors, le coin-coin, ça c'est l'onomatopée.
Le cancanement.
Exactement. On va voir aussi si vous aimez en manger du canard. Citez-moi, chacun votre tour, un plat fait avec du canard. On va commencer avec vous, François Turian.
Le magret.
Le magret. Gabriel.
Le canard, moi je connais le canard au Cointreau. C'est un petit sucre qu'on met dans de l'alcool, voilà.
Et puis vous, Barnabé ?
Moi, j'aime beaucoup le canard braqué.
Parfait. Et les expressions, on en parle souvent, hein, des canards. On va voir si vous les connaissez. Première expression pour vous, François Turian, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Vous savez ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose qui va nous enthousiasmer.
C'est juste. Gabriel, pour vous, le deuxième, être... Alors, faut pas le prendre mal, hein. Être le vilain petit canard.
C'est bon, je m'identifie totalement au vilain petit canard, il devient un cygne. C'est le conte d'Andersen, notre ami danois.
Exactement. Et ça veut dire quoi, être...
Ah, bon, ça veut dire se signaler par des caractéristiques plutôt négatives.
Exactement. Et puis, Barnabé, il fait...
Voir, il n'est pas encore devenu un cygne, hein, Gabriel. Pardon. Un froid de canard. Je pense qu'en ce moment, il suffit de regarder ce qui se passe dehors et on aura tous compris, c'est quand on a la chair de poule, donc quand il fait très froid.
C'est exactement ça.
Merci, on est moins bêtes comme d'habitude après vous avoir entendu, Nadia.
J'espère.
François Turian, pour conclure, un mot sur la suite. Comment vous voyez la résolution de cette grippe aviaire ? Est-ce que les oiseaux sauvages vont trouver eux-mêmes le remède ?
Oui, certainement. Je pense qu'il n'y aura pas de grosse épidémie au niveau des oiseaux sauvages. Par contre, effectivement, les volailles, il y a quand même quelques soucis. La Hollande vient d'abattre 200 000 poulets en quelques jours. Donc, ça peut être des ravages assez conséquents pour l'économie. Mais je pense qu'il faut aussi revoir un peu nos modes de production, encore une fois. Et puis, je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Il faut espérer, évidemment, que ces virus ne passent pas la barrière des espèces, c'est-à-dire qu'ils ne se transforme pas et ne mute pas et soit ainsi pathogène pour l'homme.
Merci François Turian d'être venu nous rejoindre pour nous donner votre analyse de cette grippe aviaire donc qui fait son retour en Suisse et qu'on espère pas pour trop longtemps. Bonne soirée et à bientôt.
Merci, bonne soirée.
On va faire un petit point d'actualité avec vous, Yann Hasler.
Bonsoir. Une nouvelle école d'horlogerie dans l'arc jurassien, Taguieres et Zénith s'associent pour former des apprentis. 12 jeunes sont actuellement en formation au sein de l'école d'horlogerie LVMH qui a été inaugurée à La Chaux-de-Fonds dans les locaux de Taguieres. L'enseignement classique du SCFC est lui toujours dispensé aux élèves au CIFOM au Locle. Le faux dentiste biennois restera en détention. Le tribunal fédéral a rendu sa décision. Le technicien dentaire avait défrayé la chronique pour s'être fait passer pour un dentiste. De janvier 2006 à juillet 2011, il avait été condamné en mars dernier à 4 ans et demi de prison assorti d'une interdiction de pratiquer son métier. L'homme de 53 ans avait ensuite demandé sa remise en liberté qui a été refusée. Les travailleurs de la région active dans le second œuvre montent au créneau. Ils ont participé à une manifestation aujourd'hui à Delémont et Neuchâtel notamment. Le but de la résolution votée par les employés, dénoncer l'attitude du patronat qui a résilié la convention collective de travail pour la fin de l'année. La Suisse sera capable de former 1300 médecins à partir de 2021. La conférence suisse des hautes écoles l'a annoncé aujourd'hui. Plusieurs centaines de places seront créées dans les universités dans les années à venir. La Suisse, bonne élève dans la langue de Shakespeare, elle figure au 14e rang dans le classement mondial des compétences en anglais des adultes. Au niveau national, les Zurichois se révèlent les meilleurs anglophones. Aux États-Unis, Donald Trump compose son entourage. Le président élu des États-Unis a confié le ministère de la Justice au sénateur Jeff Sessions, qui est très remonté contre l'immigration illégal. En tennis, Stan Wawrinka n'a pas fait le poids face à Andy Murray. Le Vaudois a subi la loi du Britannique en deux manches cet après-midi au Master à Londres. Il s'est incliné 6-4, 6-2 et voit son parcours prendre fin. Pour ce qui est du temps, demain, le temps, il sera très nuageux le matin avec des averses. Il y aura quelques accalmies prévues durant l'après-midi. Les températures iront de 3 à 9 degrés au maximum dans nos régions.
Place publique.
Les maladies sexuellement transmissibles sont en hausse en Suisse. C'est le constat de l'Office fédéral de la santé publique qui a publié cette semaine ses chiffres pour l'année 2015. Le nombre d'infections de gonorrhée prennent l'ascenseur. Hausse également observée pour la syphilis et la chlamydiose et dans une moindre mesure pour le HIV.
À croire que les mesures de prévention ne suffisent plus. Comment faire pour diminuer les pratiques, à risque? Est-ce qu'on peut concilier pulsion, désir et raison à l'heure où l'on peut vivre avec le sida où on peut guérir la plupart des MST?
On en parle avec vous, Catherine Stangl. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la chef du Centre de santé sexuelle et planning familial de la ville de Neuchâtel. Oui. Votre réaction déjà à ces chiffres de l'année 2015, publiés cette semaine par l'Office fédéral de la santé publique, est-ce que cette hausse des maladies sexuellement transmissibles, c'est un constat d'échec d'une certaine manière pour la prévention ?
Alors c'est un constat qu'on fait depuis quelques années, que certaines maladies augmentent, réapparaissent, comme la syphilis. Est-ce que c'est un constat d'échec pour la prévention? On pourrait pas, pour moi, le dire aussi directement, parce que la prévention, c'est quelque chose qui est multiforme et puis qui s'adapte aussi à l'évolution. On a connu d'autres périodes où certaines infections ont apparu, ont augmenté, et ensuite on réagit en proposant différentes mesures.
C'est un signe aussi que les gens se font plus facilement dépister, c'est pas forcément une hausse nette des cas. C'est aussi un changement d'attitude par rapport à ces maladies.
Alors, on peut imaginer aussi qu'un certain nombre de cas supplémentaires viennent du fait que plus de personnes viennent se faire dépister. Donc là, il faut regarder les chiffres. Et puis, on sait aussi que certaines infections se transmettent parce que les gens ont plus de partenaires sexuels à certaines périodes de leur vie. Et puis, ça augmente la possibilité de transmettre différentes choses, donc aussi des infections.
Les progrès de la médecine, est-ce que ces progrès nous anesthésient, nous rendent moins vigilants? On n'a plus la peur forcément d'y passer, on peut vivre avec la maladie?
C'est un aspect, moi j'étais sensible à ce que disait Nadia, c'est-à-dire à concilier la raison, la passion, les sentiments et aussi parfois certaines difficultés d'appliquer la prévention. Ça c'est quelque chose qui a toujours existé, probablement existera toujours.
Comment un centre comme le vôtre peut contribuer à prévenir les comportements à risque?
Alors chez nous, on fait différentes choses pour prévenir les comportements à risque dans un cadre plus global. Par exemple, on a des campagnes d'affichage qui sont dirigées par l'Office fédéral de la santé publique. Et nous, on n'est pas à ce niveau. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt du conseil, de la discussion. Par exemple, quand quelqu'un vient chez nous après avoir pris un risque de grossesse, par exemple, on va aussi s'intéresser aux risques liés aux infections. On va discuter du comportement, de comment la personne comprend le risque. Est-ce qu'elle a compris qu'elle pouvait se protéger, comment, et puis on va essayer de l'accompagner pour qu'elle puisse petit à petit, ou bien rapidement hein, même, changer son comportement, ce qui n'est pas toujours facile.
Qui peut venir dans votre centre, et est-ce que quand on vient souvent trop tard?
Alors on vient en général quand il y a un problème. Chez nous, certaines personnes viennent s'informer, mais elles sont vraiment minoritaires. La plupart des gens qui viennent chez nous viennent quand il y a une inquiétude. Par exemple, un retard de règles serait une inquiétude pour une grossesse. Mais si on a pris un risque de grossesse, on aura aussi peut-être pris un risque de transmission d'infection. Ou on vient parce que le préservatif s'est déchiré, ou qu'on ne l'a pas mis, ou qu'on l'a perdu en route. Puis après, on se dit, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Et les gens viennent surtout dans ces moments-là. Ce qui sont des bons moments pour parler des risques et de la prévention. Parce que quand on est inquiet, on est prêt aussi peut-être à s'intéresser un peu plus à la question et puis à changer quelque chose.
Quel message vous semble centraux? Alors, il y a ces campagnes d'affichage, vous êtes à un autre niveau, vous nous l'avez dit. Mais s'il y a une chose que vous aimez rappeler dans votre entourage quand on vous pose la question sur votre rôle dans ce centre de santé sexuelle?
Alors moi, je dirais, protégez-vous. Et puis, si vous ne l'avez pas fait, ben faites-vous dépister, faites-vous soigner, faites-vous traiter, discutez avec vos partenaires si vous pensez avoir pris des risques. Parce qu'on va tous apprendre des choses dans notre vie sexuelle. Et puis, ce n'est pas parce qu'une fois, on a fait quelque chose qu'on va après peut-être regretter que notre vie est finie. Donc, ça fait partie de la vie.
Les tendances montrent que les contaminations sont plus nombreuses chez certaines catégories de population, notamment dans le cadre des relations homosexuelles. Est-ce que votre centre prévoit des opérations spéciales ou offre des conseils spécifiques ciblés?
Alors, dans la stratégie actuelle, la stratégie nationale, on a des axes différents. Donc, en particulier chez nous, on est dans l'axe de la population générale, comme on dit. Et un autre axe est celui des hommes qui ont du sexe avec des hommes, par exemple. Puis ça, dans notre canton, c'est plutôt le domaine du groupe SIDA Neuchâtel. On est ouvert à recevoir tout le monde. Par contre, les actions spécifiques ou des personnes qui spécifiquement travaillent dans ce domaine, c'est plutôt au groupe SIDA.
Nadia ? La prévention, ça vous parle? Ça vous évoque des cas très, très concrets?
Oui. Ben justement, parce que la prévention, ben je pense que ça marche bien, mais que c'est pas vraiment ça le souci. Le problème, je vais vous le démontrer. Je tiens juste à préciser que tout ce qui sera dit n'est pas adapté de faits réels. Alors, je vais me mettre dans la peau d'une jeune fille de 19 ans, je m'appelle Canel, et je commence à bien connaître le monde de la nuit. J'ai plein de potes trop mignons, et puis je me sens belle en plus. Alors un soir, je suis complètement bourrée à la vodka verte, et je dérape. Je me retrouve collée à Henri Ferdinand, le beau gosse du lycée. Sauf que, je fais quoi ? Alors, je fais quoi ? Sauf qu'en aucun d'entre nous n'a de préservatif, il est 3h du matin. Je fais quoi ?
C'est un conseil que vous demandez, Canel.
Oui.
Moi, je pense que le mieux, c'est de désinfecter tout à la vodka et on y va.
Plus sérieusement, c'est...
Aïe,
c'est... Quand on n'a pas de préservatif, on est dans cette fameuse pulsion du réel.
On n'a pas de préservatif. Bon, avec un peu de chance, quand on a bien bu, ça, la pénétration devient vraiment difficile. Donc, messieurs, l'érection n'est pas favorisée par les abus d'alcool. Ah,
est-ce qu'il y a assez de distribution de préservatifs
Alors, c'est sûr que la situation où on se retrouve sans préservatif, et on va le faire quand même, elle est pas très rare. Hein. Canel, vous n'êtes pas la seule jeune femme à qui ça arrive. Donc, une première chose qu'on peut dire peut-être aux jeunes femmes, c'est d'avoir elles-mêmes aussi des préservatifs. Une partie des jeunes femmes pense encore maintenant que c'est le gars qui va en avoir. Donc, chacun d'entre nous, on peut avoir des préservatifs quand on sort dans peut-être pas dans son porte-monnaie, ça c'est pas l'endroit le meilleur pour les transporter, mais dans son sac, dans sa poche. Ça c'est une première chose. Quand on y pense avant, c'est plus facile d'y penser quand on est lucide et de prévoir que sur le moment de trouver le distributeur Selecta pour acheter des Cellor.
Donc la chaussette, ça fonctionne pas.
Alors la chaussette ni la dentelle. Ça c'est très élégant, mais bon. Inefficace.
Mais alors justement, hein, je suis toujours collée à Henri Ferdinand. Sauf que j'ai un préservatif, mais il n'est pas à la bonne taille. Parce que bon, je ne me balade pas avec une pharmacie dans mon sac, je fais quoi ?
Oui, alors là, c'est déjà très précis, ça. Il n'est pas à la bonne taille. Dans quel sens ? C'est trop petit, donc on n'arrivera pas à le dérouler. Trop grand, il va flotter dedans. Oui, alors Canel, je pense que vous pourriez aussi finalement prendre du plaisir avec Henri Ferdinand en renonçant peut-être à une pénétration.
Et puis, alors, je suis avec Henri Ferdinand, sauf qu'en fait, je prends la pilule et qu'il me jure qu'il n'a pas de maladie. Je fais quoi ? Alors que mon souci principal à 19 ans, c'est simplement de ne pas tomber enceinte.
Ne crois jamais un garçon.
C'est le conseil
ça,
de Barnabé.
Ça, c'est un conseil de vieux con, mais crois jamais un garçon.
Je ne vais pas dire le contraire. Hein.
Donc, prudence avec les serments d'ivrogne, c'est ça ?
Mais non seulement d'ivrogne, mais... Donc, on n'a pas fait un test, on ne peut pas assurer, à moins de faire aussi ce qu'on appelle chez nous l'évaluation des risques, c'est-à-dire on peut vérifier si la personne a pris des risques, mais ce n'est peut-être pas à 3h du matin que vous allez faire ça. Donc, a priori, quand vous ne connaissez pas votre partenaire, la prudence est de mise.
Et puis Canel, elle a un peu une vie bizarre. On parle des relations sexuelles, mais sauf qu'à ce moment-là, je me ravise, je me rhabille et on décide de rejoindre les autres. Ils sont en séance de spiritisme et puis ils se coupent le bout du doigt pour devenir frères de sang. Je fais quoi ? Est-ce que comme ça, on peut aussi se contaminer ?
Ah, il faut vraiment que beaucoup de sang frais passe dans le sang d'autrui pour que dans un tel échange, il y ait une contamination. Ce n'est pas complètement exclu, mais le virus du VIH ne vit pas longtemps à l'air. Il aime plutôt rester dans les liquides du corps.
Canel, vous voilà rassurée. Vous avez maintenant un guide pour mieux traverser ces soirées ?
Oui, je m'abstiendrai, je vais faire un vœu de chasteté.
Et surtout, Canel change, parce que Henri Ferdinand, c'est pas possible comme mec pour sortir avec.
Canel aussi. Hein.
Dédicace à tous les Henri Ferdinand. En tout cas, Catherine Schlangel, merci d'avoir été avec nous. Encore peut-être rapidement un mot quand même sur ces portes ouvertes. Vu que le mois de décembre est dédié à la prévention et dédié à la santé sexuelle, vous ouvrez les portes de votre centre le mardi 29 novembre de 17h à 20h. C'est en ville de Neuchâtel. Les précisions sur santé-ne.ch. Qu'est-ce qui va s'y passer pour ceux qui ont envie de venir vous voir ?
Ce sera assez simple. Donc, le canton, la santé publique a décidé de consacrer le mois de décembre à la valorisation de la promotion de la santé dans le domaine de la santé sexuelle. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait simplement ouvrir nos portes d'une manière un peu plus large, parce que nos portes sont ouvertes. Hein. Chacune peut prendre rendez-vous chez nous, c'est gratuit, c'est confidentiel. Mais là, on va recevoir les gens, on va expliquer ce qu'on fait. Les conseillères seront à disposition pour discuter, répondre à des questions d'une manière assez informelle. Et bienvenue à toutes et tous.
Eh bien, le message est passé et un immense merci d'être venu dans Place Publique nous parler de ces maladies sexuellement transmissibles, du comportement pour éviter les risques et à bientôt, plein succès pour la suite.
Merci, bonne soirée.
Merci.
Place Publique.
Des papis et des mamies sont inquiets pour l'avenir du climat et de leur retraite. Ils ont manifesté cette semaine dans plusieurs villes de Suisse romande, dont Port-en-Truy et La Chaux-de-Fonds. Leur mouvement s'appelle « Grands-parents pour le climat ». Ce mouvement est membre de l'Alliance climatique qui réunit une soixantaine d'associations en Suisse et leur revendication à toutes ces associations, mais surtout grands-parents, est la suivante. Ils demandent aux caisses de pension de ne plus investir dans les énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon.
Des énergies néfastes pour l'environnement qui doivent être abandonnées progressivement selon les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, dont la mise en œuvre est débattue ces jours par les membres des Nations Unies lors de la COP22 à Marrakech. Et donc, miser des milliards de francs sur les énergies non renouvelables, c'est risquer de perdre beaucoup d'argent.
On en parle avec vous, Jean-Claude Laloux. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints.
Bonsoir.
Vous êtes coprésident de ce mouvement Grands-parents pour le climat. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, dites-nous? C'est l'avenir de vos retraites, de ce que vous allez toucher à la fin du mois, ou c'est l'avenir du climat, réellement?
Je dirais d'abord l'avenir de nos petits-enfants. C'est quand même ça l'approche spécifique de notre mouvement. On s'est fondé sur cette base il y a entre 3 et 2 ans, ça s'est fait par étapes. Et d'abord, c'est la sensibilité de grands-parents inquiets pour l'avenir des générations qui savent pas très bien ce qui va leur tomber sur le coin de la figure. Et on a l'impression de nous bien le voir et d'être inquiets.
Alors, vous avez fait valoir votre message, notamment cette semaine à La Chaux-de-Fonds ou à Port-en-Truy. Vous avez promené un gros nuage noir de gaz carbonique dans les rues des villes. C'est quoi la démarche? Qu'est-ce que vous voulez obtenir avec ça?
La démarche, c'est que les gens s'arrêtent, se posent des questions, nous en posent, comme ça on peut ouvrir un dialogue avec eux. On est content que les médias relayent aussi le message. On a été bien suivis par la télé romande et par vous maintenant. Merci.
Donc vous promenez ce nuage, vous parlez aux gens, vous essayez de créer le débat et vous demandez finalement, avec une action assez concrète, aux caisses de pension de changer de politique d'investissement, de ne plus mettre de l'argent dans ces énergies non renouvelables. Comment vous voulez vous y prendre pour faire pression?
Écoutez, on ne leur met pas le couteau sur la gorge, on leur demande de faire ça dans les 5 ans à venir, c'est quand même une chose qui est possible. Il y a des contacts qui ont été pris avec la Fondation Ethos, qui a des compétences dans le domaine, certaines caisses travaillent déjà avec, certaines caisses de pension de certains cantons comme Zurich ou Berne ont déjà fait ce choix de ne plus investir, de se désinvestir de leur placement dans les énergies fossiles, donc c'est possible et c'est nécessaire.
Et ça se passe notamment sur Internet. On n'a pas, y a pas à rougir hein, quand on est un aîné. Vous savez communiquer sur tous les supports. Vous êtes d'ailleurs vous-même l'incarnation parfaite du grand-père idéal sur la vidéo de YouTube où vous expliquez les arguments. Vous le faites très bien. C'est assez surprenant, en tout cas, de voir que finalement les aînés se réveillent et communiquent sur les réseaux sociaux, se mobilisent.
Mais ils ne sont pas endormis. Disons que là, ils ont l'impression d'avoir quelque chose à dire. Et puis, donc il y a vraiment cette démarche émotionnelle, affective, vis-à-vis de nos petits-enfants. Ça part de ça, même si certains de nos membres n'ont pas d'enfants, mais ça ne fait rien, c'est une démarche. Et puis, avec ça, on a une motivation, donc on creuse. En plus, on a l'impression qu'on ne va pas nous ficher à la porte de la même manière qu'un... ce que certains qualifient d'agitateur, donc on profite un petit peu de ça.
Il est question de milliards et de milliards de francs hein, que gèrent ces caisses de pension, c'est les retraites de tout un chacun. Vous demandez donc qu'on les investisse différemment. Comment une mobilisation comme la vôtre peut faire infléchir ces caisses de pension?
Alors, ce n'est pas notre mobilisation qui compte essentiellement, c'est ce qu'on propose à chacune des personnes qui a... cotiser pour sa caisse de retraite, qui cotise encore et qui espère la toucher un jour. Et il y a sur le site de GP Climat, tout le monde peut trouver, il y a les liens pour ça, c'est facile, gpclimat.ch, tout le monde tombe dessus. Il y a un site retraite sans risque qui permet à tout un chacun de très simplement sélectionner sa caisse de pension, d'envoyer un message standard ou personnalisé pour exiger de sa caisse de pension qu'elle fasse les choses autrement.
Vous voulez spammer les caisses de pension?
Ouh, ce n'est pas un vocabulaire que j'emploie beaucoup. Je ne suis pas sûr de savoir exactement tout ce que ça recouvre. Donc, je n'emploierai pas ça.
C'est-à-dire envoyer un maximum de mails pour bourrer les boîtes mails qui sont obligées finalement de prêter attention à votre
alerte. Oui, on peut le formuler comme ça. Non, notre idée, c'est que vraiment, les gestionnaires, les directeurs gestionnaires de caisses de pension se rendent compte que leurs assurés sont sensibles à ça pour deux raisons. D'abord, qu'ils ne veulent pas participer à cette aggravation du climat pour les générations à venir. Et puis qu'ils se rendent compte que les placements dans ces énergies sont des placements à risque. Parce que plus on va s'en désinvestir, plus elles vont se casser la gueule économiquement. Donc c'est un très mauvais plan de placement.
Décidément, le climat préoccupe les aînés. Il y a deux mois, on apprenait l'existence de l'association des aînés pour la protection du climat. Donc, c'est pas la même chose que grands-parents pour le climat. C'est nos aînés, l'association des aînés pour la protection du climat. Et eux, ils préparent une action en justice contre le Conseil fédéral, hein, une manière très américaine de faire. Des autorités qu'ils accusent de ne pas en faire assez contre le réchauffement climatique. Est-ce que ce ne serait pas plutôt aux jeunes générations de se mobiliser ? Pourquoi ça vous touche autant ?
Alors, une correction, ce n'est pas eux, c'est elles. Ce sont des femmes, ce sont des aînés ES
D'accord.
pour la protection du climat. Et ça a une raison très précise. C'est parti d'un dépôt de plainte qui a eu lieu en Hollande et qui a eu un effet sérieux, une attaque du gouvernement hollandais pour lui dire « Vous ne respectez pas la Constitution qui vous dit, qui vous met en devoir de protéger les personnes les plus fragiles de la population. » Les études scientifiques montrent qu'une des catégories de population potentiellement les plus touchées par une évolution du climat seraient les femmes de 70 ans et plus. D'où l'idée de fonder cette association qui n'est pas concurrente, mais qui est une association, disons, sœur, qui marche en parallèle avec nous.
C'est dire que dorénavant, on va devoir compter plus que jamais avec les aînés dans le débat public, puisque la population vieillit. Vous avez des intérêts à faire valoir. Est-ce qu'on va assister à plus en plus de mouvements, de causes défendues par les aînés de manière diverse et variée ?
Écoutez, c'est possible. Les aînés ont cette qualité ou cette chance d'avoir peut-être pas plus de temps libre, mais plus de temps disponible, mais plus de temps libre, c'est-à-dire de faire leur choix dans l'occupation de leur temps. Et je crois que c'est une génération qui a gardé chevillé au corps l'engagement bénévole, l'engagement citoyen. C'est bien, on en profite.
J'ai lu attentivement la charte de votre association, Grands-parents pour le climat. Vous vous souciez de l'avenir des générations futures, de vos petits-enfants. Vous voulez, je cite, « donner des chances à nos descendants de vivre sur Terre dans un climat et un environnement favorable au renouvellement de la vie ». Vous dites aussi que vous visez un changement de mode de consommation. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'essaye de réduire ma consommation, d'être écologique. Mais pour certaines choses, je ne sais pas comment faire. Alors vous allez peut-être m'aider. Voici le questionnaire « Comment je fais pour ?». Alors, comment je fais pour consommer moins si j'ai un travail qui exige l'utilisation d'une voiture ?
Tu changes de travail.
Oui, merci de cette bonne réponse. C'est embarrassant parce qu'il y a des principes et puis il y a les situations individuelles. Si on oppose des situations individuelles, on trouvera toujours le moyen de ne rien faire. Alors, je pense qu'on peut essayer d'aborder les choses autrement.
Donc, de changer de travail ?
Non, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être de négocier un horaire qui vous permet de prendre les transports publics, parce que c'est peut-être l'horaire qui vous empêche de les prendre. De peut-être passer au vélo électrique pour vous rapprocher de la gare et à ce moment-là avoir des transports publics efficaces, même si vous vivez comme moi au fin fond d'une campagne mal desservie. Il y a des solutions individuelles, je crois.
Vous êtes venu en train d'ailleurs ?
Pas jusqu'ici, non.
Presque.
Non, parce que Marin, je ne connais pas. Là, j'ai... Alors, cela, il faut être honnête, on prône une sobriété, si possible heureuse, on n'aimerait pas brimer les gens, ni nous brimer nous-mêmes, mais il n'y a pas d'intégrisme chez nous, et on sait qu'on n'est pas toujours exemplaire. Alors ça, j'en suis tout à fait conscient, et je le reconnais.
Bon, ce n'est pas pour vous piéger, il y a des situations
non,
plus compliquées.
Vous avez raison de poser les questions, puisqu'elles étaient au plan individuel. Je réponds honnêtement au plan individuel, je ne me sens pas toujours un modèle.
Alors, toujours
le rire est sardonique.
Toujours avec mon lieu de travail, comment je fais pour être écolo alors que je travaille dans un lieu, la radio, qui utilise constamment des objets électroniques ?
Mais tous les objets électroniques ne sont pas des horribles consommateurs. C'est aussi l'usage qu'on en fait. On se bagarre au sein du mouvement pour essayer de limiter nos mails. C'est symbolique parce que ce n'est pas des tonnes de CO2, mais c'en est un peu quand même. C'est peut-être plus le changement d'attitude que les grammes de CO2 qu'on estime essentiels.
Intéressant, réduire les mails, voilà un défi qui parlera à beaucoup.
Ça soulagera beaucoup de monde aussi.
Comment je fais pour acheter des produits suisses et bio sans me ruiner ?
Sans me ruiner, pardon, j'avais mal entendu. Alors là, c'est aussi l'aîné qui parle. On fait aussi partie d'une partie de la population qui est majoritairement pas dans des conditions économiques graves, contraignantes. Alors, on accepte de payer un peu plus cher pour être un peu plus près de nos idées.
Est-ce qu'être au plus près de ses idées, c'est payer plus, forcément ?
Pas toujours.
Et moi, je dirais simplement, si vous allez au marché, que ce soit à la Chaux-de-Fonds ou le samedi matin, vous verrez que c'est des maraîchers de la région et qu'on ne paye pas plus cher qu'à la Migros ou à la Coop ou comme ça. On pense toujours que c'est parce que c'est des gens qui viennent d'autour et qui font les choses eux-mêmes, ça coûte plus cher. Et ben, c'est pas vrai, c'est pas toujours le cas. Et souvent, les produits sont de meilleure qualité.
C'est tout à fait juste. Il y a plusieurs façons de raccourcir les distances. Il y a celui d'aller plus près et puis celui d'avoir moins d'intermédiaires. Je suis tout à fait d'accord.
Alors, on reste avec les grands supermarchés. Comment je fais pour acheter des produits dans ces grandes marques sans tout l'emballage autour ? Est-ce qu'on a le droit de demander
On peut les poser à la sortie. Dans la mesure où vous n'avez pas vous n'allez pas laisser la bouteille d'huile d'olive et emmener l'huile dans vos petites mains, on est d'accord. Mais dans toutes les limites possibles, vous pouvez le faire, vous les posez à la sortie. Et je pense que c'est une action individuelle intéressante. Et puis c'est une façon de mettre les emballeurs devant leurs responsabilités, changer les méthodes.
Un membre de ma famille disait, on vit une époque de fermeture, en lien avec tous ces emballages Voilà, des emballages qui emballent des emballages.
Ouais, non, mais on en est là. Il y a aussi des magasins qui travaillent au vrac. Et c'est souvent des magasins bio, donc on fait d'une pierre deux coups. C'est intéressant.
Mais dans ma région, il n'y en a pas encore, malheureusement.
Eh ben, faites insister
ménages.
Pour qu'il
y en ait. Hein. Déménage, change
des
de travail.
Déménage.
Changer de vie. Et dernière question, comment je fais pour être écolo si mes petits-enfants veulent absolument le nouveau smartphone qui vient de sortir et le dernier ordinateur ?
Alors, c'est une préoccupation que je rencontre. Il y a une forme de fermeté. Là, je pense qu'on peut très bien, en discutant avec nos petits-enfants, leur faire admettre que c'est pas parce que le copain a un truc que nous, on trouve pas bien, que c'est nécessaire. Et je trouve qu'on y arrive et que nos petits-enfants sont bien plus raisonnables que ce qu'on pourrait nous faire croire.
Merci beaucoup Jean-Claude Lalou d'être venu nous voir, d'être venu nous parler de cette action que vous menez contre la politique d'investissement des caisses de pension à qui vous demandez de ne plus investir dans les énergies non renouvelables. C'est dangereux pour l'environnement, c'est dangereux aussi pour nos retraites. Merci d'être venu, merci aussi pour tous ces conseils de vie de tous les jours pour essayer d'être au plus près d'une vie respectueuse de l'environnement. Et puis on sera attentif à la suite qui sera donnée à votre démarche. Merci aussi à vous Barnabé d'être venu nous décrocher plus qu'un sourire. On aime beaucoup votre regard humoristique sur l'actualité. À tout bientôt. Et Nadia, Place Publique, eh bien quoi, on la retrouve comme d'habitude en permanence sur nos sites web.
Exactement, si vous avez envie de réécouter cette émission, c'est possible tout à l'heure sur RJB et RTN.ch. Et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt, bonne soirée.
Bonsoir, merci. Place Publique.